réplique, une politique écologique est-elle possible ? Avec Marc Fontcave et Catherine Larère. En juin 2017, Nicolas Hulot, alors ministre de l'écologie, donnait un long entretien au magazine Le 1. Il disait notamment « Nous sommes mis en demeure de prendre en charge les conséquences de notre propre succès. C'est ça le 21e siècle. On hérite de toutes les dettes du 20e. » Pour éponger ces dettes, Nicolas Hulot voulait créer les conditions d'une transition irrésistible dans quatre domaines. L'énergie, l'agriculture, la santé, l'économie sociale et solidaire. Harcelé par les lobbies, épuisé par la précipitation du temps médiatique, Nicolas Hulot se demandait dans le même entretien s'il avait encore son libre arbitre. À la rentrée, il a tranché en jetant l'éponge. À mes deux invités, la philosophe Catherine Larère et Marc Fontcave, qui est professeur au Collège de France, où il occupe la chaire de chimie des processus biologiques, je voudrais d'abord demander quel sens il donne à cette démission. Révèle-t-elle, par-delà les bonnes paroles que prodiguent tous les gouvernements, de gauche, de droite ou du centre, l'incompatibilité qu'il y a entre les exigences de l'écologie et celles de la politique, Catherine Larère?
L'incompatibilité, non. La très grande difficulté à inscrire les questions écologiques dans la politique, oui. Il me semble que de ce point de vue-là, la démission de Nicolas Hulot est claire. Elle montre que si tout le monde est préoccupé d'écologie, et en ce sens, on pourrait dire que l'écologie, elle est partout, comme le disait Bruno Latour dans son dernier livre, quand Trump refuse de signer, enfin se sort de l'accord de Paris de 2015, il fait de l'écologie politique, donc on est dedans. Mais faire une politique écologique qui permette, sinon d'améliorer la situation, du moins d'empêcher qu'elle s'aggrave, c'est extrêmement difficile. Et pour moi, l'échec de... une démission signée un échec, en témoigne. Et j'en donnerai un élément supplémentaire pour moi, c'est que Hulot est sorti avec sa réputation intacte. Ce qui montre quand même que l'opinion publique, dans l'affaire, elle a tranché.
Oui, mais peut-on vraiment parler d'échec, puisque quand même il a obtenu l'arrêt de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Sur d'autres domaines aussi, il a pris des mesures importantes. Alors si vous parlez d'échec, est-ce que vous pouvez le définir de manière un peu concrète, Catherine Larère?
Non, on ne peut pas dire qu'il a rien fait. Il a certainement fait des choses. On peut dire... Alors là aussi, il faudrait prendre toute la liste, mais on pourrait dire que sur un certain nombre de dossiers importants, il n'a pas obtenu d'arbitrage en sa faveur. On prendra la question du glyphosate, où il a obtenu qu'on déciderait un petit peu plus tôt, mais finalement on continue à utiliser du glyphosate. On prendra sur un cas tout à fait différent, mais qui est important, qui est le cas du loup. Il a pas obtenu un arbitrage en faveur du loup. On va donner de plus en plus le droit de tirer sur les loups, même pas dans des situations de défense. Donc on peut prendre une série de dossiers où il n'a pas obtenu d'arbitrage et où, bon, vous parliez d'une transition, elle s'est pas impliquée.
Alors, quelle est votre interprétation, vous, Marc Fontcave?
Je dirais que la question de la compatibilité entre l'exigence politique et l'exigence écologique dépend du cadre dans lequel on pratique les deux. Si cette exigence écologique se place dans un contexte d'urgence absolue, je dirais que là, oui, il y a incompatibilité entre la politique et l'écologie. Or, c'est bien ça le problème qui s'est passé avec Nicolas Hulot. Parce que quand je me suis lancé à proposer au Monde cette tribune...
Oui, vous avez publié...
On y reviendra, mais peut-être...
Vous avez publié une tribune dans Le Monde datée du 4 septembre. Et elle était intitulée « N'attendons pas de révolution écologique Avançons à petits pas.
Voilà, alors peut-être on reviendra sur cette notion de petits pas, parce que c'est important de préciser. J'ai choisi ce mot parce que Nicolas Hulot l'a justement choisi au moment où il est parti, en déplorant qu'il n'avait fait que des petits pas. Mais je dirais qu'à partir du moment où on place la réussite écologique uniquement dans l'urgence, alors à ce moment-là, il y a grand risque d'échec et de démission de ministres. Et c'est effectivement ce qui se passe, parce que l'exigence politique, c'est qu'il y a des contraintes sociales, des contraintes économiques, des contraintes technologiques, scientifiques, qui fait que tout ne peut pas être résolu instantanément. Le problème que je vois dans la politique écologique de Nicolas Hulot, c'est que, finalement, où a été définie une politique écologique ? Quelle priorité ? Quelle direction ? Je ne sais pas. Tout est sur la table. Aussi bien Notre-Dame-des-Landes que le climat, que l'ours, que le glyphosate. Donc effectivement, on voit dans l'entretien dont vous parlez, il y a tout sur la table. Santé, énergie, etc. À partir du moment où on ne définit pas des priorités, on est confronté à une multitude de problèmes. Et là, c'est l'échec absolu si on n'accepte pas ces petits pas qui sont, mon point de vue, possibles.
Alors, parmi les priorités, encore une fois, laissons un instant de côté la question de l'ours et celle du glyphosate, sur laquelle je pense qu'il sera très important de revenir. Parmi les priorités, il y en a une que l'actualité impose. Elle vient du dernier rapport du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, autrement dit le GIEC. Et là, la presse est très pressante, si j'ose dire, puisque Le Monde titre « Climat, une dernière chance pour la planète et libération maintenant ou jamais ». C'est-à-dire, il s'agit, pour ne pas effectivement aller à la catastrophe, de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre pour que la température n'augmente que de 1,5 degré dans les décennies à venir et non de 2 degrés. Et ça demanderait déjà des changements drastiques, mais si ce n'est pas fait, toute une série de conséquences dramatiques, pour la Terre et pour les hommes, s'en suivraient. Alors là, c'est là que la question se pose. Une politique écologique s'avère urgente et nécessaire. De quel ordre serait cette politique et est-elle possible ?
Alors, je crois qu'il faut rappeler, c'est Stéphane Aricout qui rappelait ça dans un article très récent du Monde, que le dernier rapport du GIEC avait d'abord pour but de montrer la différence entre 1,5 degré et 2 degrés. C'est-à-dire qu'à la COP21 en 2015, l'accord s'est fait sur 1,5 degré, on a pensé que c'était une concession diplomatique faite aux îles du Pacifique qui sont en train d'être couvertes, à un certain nombre de pays du Sud qui sont très très menacés, mais que en fait personne n'y croyait. Et le rapport du GIEC montre qu'il y a une différence réelle entre 1,5 degré et 2 degrés, alors que si on en reste aux engagements qui ont été pris en 2015 et qui ont été plus ou moins confirmés dans les COP qui suivent, enfin celle qui va se tenir en Pologne doit prendre de près. C'est quelque chose il y a des urgences, mais c'est quelque chose qui se joue sur un terme assez long. On va vers 3-4 degrés, c'est-à-dire des températures qui peuvent, en 2100 en France, dépasser quelquefois les 50 degrés, ce qui est énorme. Hein. Donc, de ce point de vue-là, le rapport du GIEC, c'est pour rendre finalement mesurable qu'on se rende compte de ce vers quoi on va. Donc, moi, je suis très sceptique vis-à-vis du catastrophisme et ça me paraît pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est de prendre conscience et de voir ce qui se passe.
Voilà. Mais enfin, vous êtes sceptique à l'égard du catastrophisme, mais c'est vous-même qui écrivez dans votre dernier livre, coécrit avec Raphaël Larrère, c'est vous-même qui dites, Catherine Larrère, que les gaz à effet de serre avec l'émission des gaz à effet de serre. Le changement climatique n'est pas la seule manifestation de cette crise. Vous parlez, vous dire que ça concerne l'érosion de la biodiversité, l'acidification et la pollution des océans, la pénurie d'eau potable, l'érosion des sols arables. Et tout ça a atteint déjà une dimension planétaire. Et quand je vous lis, quand je lis les commentaires du rapport du GIEC, je pense à cette phrase de René Char, et je vous la soumets, Marc Fontcave, nous sommes plus près du sinistre que le toxin lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez?
Cette phrase de Char, ces grands titres, dernière chance, maintenant ou jamais, de mon point de vue, ce sont des mots d'ordre qui sont relativement inopérants.
D'abord, vous êtes d'accord là-dessus?
Oui, d'abord, c'est pas nouveau. Je pense qu'on pourrait reprendre des titres de journaux il y a 3 ans, 5 ans, etc.
L'appel de Milan en 1970 ou 71, c'est toute une série de scientifiques qui disent qu'on n'a pas la capacité.
Oui, voilà. Donc de ce point de vue-là, le GIEC fait son travail. C'est-à-dire, on lui a demandé, en effet, de donner quelles étaient les conséquences de ces augmentations de température. Quand on dit c'est la dernière chance ou c'est maintenant ou jamais, sans dire pourquoi c'est difficile et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit maintenant, eh bien ça ne sert à rien.
Ah, je suis tout à fait d'accord, Marc Contamé. Moi je vous demande, vous êtes scientifique, que risque-t-il de se passer si nous ne réussissons pas à ralentir l'émission des gaz à effet de serre? Si ça continue comme ça, quelles sont les conséquences prévisibles selon vous?
La première chose que je réponds, c'est que le GIEC, alors je peux vous répéter ce que dit le GIEC, mais le GIEC, dans son dernier rapport, dit clairement tout ce qui va aller plus mal, en effet, au niveau de la biodiversité, de l'assèchement de régions entières, de la montée des eaux qui va recouvrir non seulement des îles, mais des territoires en bord de l'océan.
Donc il y aura une multiplication notamment des réfugiés climatiques.
Il y aura des réfugiés climatiques, etc. Absolument. Donc de ce point de vue-là, on peut être pessimiste. Mais ce pessimisme conduit en effet peut-être à dire bah, c'est énorme, donc à ce moment-là, on ne fera rien. Donc moi, je me place d'un point de vue un peu plus optimiste, qui consiste à dire, bon, ok, ces perspectives existent, mais plutôt que de se lamenter, de dire que c'est maintenant ou jamais, essayons de définir quels sont les moyens pour, en partie, répondre à ces problèmes. Et quand je dis en partie, c'est justement peut-être avec des petits pas. J'ai été beaucoup attaqué sur cette histoire de petits pas pour dire la réalité. Peut-être je me suis assez mal exprimé. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait que des petits pas. Plus ces petits pas sont grands, mieux ça sera. Mais entre des petits pas et une révolution en un an ou quelques années que je crois totalement impossible, je préfère la première solution. Et il faut que tous nous travaillons à cela. Alors, dans le rapport du GIEC, et je termine là-dessus, en effet, ce qui se passe, c'est que le GIEC décrit bien les conséquences. Par contre, la seule recommandation qu'il donne, c'est il faut diminuer les émissions de CO2. Bon, ben ça, on a bien compris depuis très longtemps. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas d'une très grande utilité. La question, c'est comment on fait? Et est-ce qu'on le fait à l'échelle individuelle? Vous avez évoqué tout à l'heure, peut-être on y reviendra, les comportements humains de chacun. On peut évoquer, et je l'ai évoqué dans mon article, les décisions à l'échelle nationale, dont j'ai plutôt dit que c'était peut-être pas si évident que ça ait un impact
sur
le climat.
Oui, parce que la France, vous avez dit, n'est responsable que de 1% des
émissions à gaz à effet de serre. Oui, alors je le dis, c'est un peu provocateur, et je suis aussi attaqué là-dessus, comme si je disais qu'il fallait que nous ne fassions rien. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que la réalité est celle-là. C'est juste une règle de trois. C'est très simple. Avec 1% des émissions à effet de serre, si la France disparaît de la planète, si elle n'existe plus...
Le problème restera le même.
Le problème restera exactement le même. Alors, en même temps que je profite de cette émission pour dire que quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attaquer au gaspillage d'énergie dans les bâtiments, qu'on ne peut pas diminuer les consommations d'énergie dans les transports, mais... C'est la réalité. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'échelle nationale et aussi, à la fin, de l'échelle globale. Et là, c'est un autre sujet. À mon avis, ce ne sont pas les COP 21 ou 23 ou 24 qui vont résoudre les problèmes. C'est des actions de politique internationale avec comme priorité le climat et les gaz à effet de serre. Mais ça, ça n'existe pas tellement. Ce n'est pas ces grands rendez-vous annuels.
Vous comprenez le pessimisme de certains, alors. Puisque il faudra une politique internationale et on n'en a pas les instruments. Catherine Larère.
Mais je crois qu'on peut peut-être se mettre d'accord sur un point avant de continuer. En matière d'écologie, de politique écologique comme d'écologie politique, il y a quelque chose qu'il faut bannir, c'est le yaka faut que.
Voilà, hein. Absolument.
Il n'y a pas de solution unique. Ni une solution unique, ni un problème unique, ni un niveau unique. Donc si on se focalise uniquement sur les COP, on va dire les COP, ça sert à rien. Mais sans COP, on n'avance pas. Moi, j'ai vu les gens qui sortaient de la COP 21 en 2015, les négociateurs. Ils étaient contents. Parce que, regardez ce qui se disait avant, hein, il n'y aura pas d'accord en 2015. Il y a eu un accord. Donc il y a aussi une sorte de vertige de l'impuissance. On répète notre impuissance. Bon, c'est vrai qu'on n'en fait pas assez, mais on fait des choses. Et au niveau que vous donniez, moi j'en rajouterai un, qui est le niveau d'en bas. Il se passe beaucoup de choses, non pas en politique descendante, c'est-à-dire des autorités qui... Mais il y a énormément d'initiatives qui se font, et ça, c'est très important.
Voilà. Alors, est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Parce que c'est très important. Je suis surpris de voir que, finalement, tous les gens qui signent des pétitions ou qui veulent résoudre les problèmes instantanément s'adressent exclusivement au gouvernement en disant « Ce sont vous, les gouvernements, qui devez résoudre les problèmes ». Alors là, je dois dire que si on attend uniquement des gouvernements, j'ai même vu qu'il y a des gens, des associations qui se posaient la question d'attaquer en justice les gouvernements et les États.
Ça, c'est peut-être pas stupide.
Moi, ça me paraît assez stupide, je suis désolé. Mais voilà, donc effectivement, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et parmi les acteurs importants, qui sont évidemment aussi très attaqués et que je défends parfois, même souvent... Évidemment, les entreprises vont jouer un rôle éminent dans la révolution technologique et la révolution écologique. Oui. Parce que ce sont ces entreprises qui vont mettre sur le marché les nouveaux produits économes en énergie, économes en déchets, etc.
Alors, ce que vous dites m'évoque l'un et l'autre un entretien que Jean-Marc Jancovici a donné au débat il y a quelques années sur toutes ces questions. Parce que, effectivement, on a tendance aujourd'hui à opposer le capitalisme et les gouvernements aux citoyens. Capitalisme, évidemment, prédateur, gouvernement, inconscient, impuissant ou soumis. Et donc, vous avez des vedettes du showbiz qui signent récemment un manifeste pour sauver la planète. C'est-à-dire Benjamin Biolay, Romain Duris, Laetitia Casta, Isabelle Huppert nous appellent à nous mobiliser. Or, Jancovici dit dans son texte que la répartition, en gros, des gaz à effet de serre s'effectue ainsi. Un quart pour les transports, un quart pour l'agriculture, un quart pour les processus industriels, un quart pour le chauffage. Mais il dit ceci, c'est que dans les problèmes, la pollution par l'agriculture, elle procède de l'importante consommation de viande. Peut-être faudrait-il la diviser par deux. Mais cela, si il y a une, c'est le consommateur qui l'exige. Et donc, c'est lui, là, qui est en cause, et c'est son comportement qui doit changer. De même, pour les transports, il dit, nous transportons les produits dans tous les sens. Mais je pose la question, si des camions polluent pour apporter du raisin d'Italie, est-ce la faute du transporteur ou la faute du consommateur? Et le Figaro, dans un article publié au lendemain de la diffusion du rapport du GIEC, dit que parmi les solutions, il faudrait préférer le tourisme en France aux tropiques. Comme ça, on prendrait moins l'avion. Mais qui a envie de faire ça? C'est-à-dire que, effectivement, l'écologie, c'est la pensée des limites, mais cette pensée des limites, elle ne s'applique pas simplement au capitalisme, elle s'applique aussi aux consommateurs, et nous sommes consommateurs, d'autant plus consommateurs que précisément la grande passion des sociétés modernes, comme l'a montré Tocqueville, c'est la passion du bien-être. Donc là, il y a une difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés, et c'est à une sorte de conversion existentielle que nous appelle l'exigence écologique.
Oui,
Marc Fontcarré.
Je suis tout à fait d'accord. Faire croire aux citoyens que ce sera le gouvernement, un ministre qui fera des lois qui imposeront un certain nombre de comportements, Faire croire ça aux Français, à mon avis, c'est une erreur. Bien sûr, le gouvernement lui-même a sa place. Je l'ai dit, les entreprises. Mais en effet, le citoyen, à l'échelle individuelle, a des responsabilités. Et c'est pour ça que, à nouveau, je ne trouve pas d'un grand intérêt ces grandes pétitions qui en appellent au gouvernement. Ça ne fait pas, ça fait pas de mal, mais ça déplace les problèmes. Ça fait croire, à Nicolas Hulot ou à Emmanuel Macron que c'est eux qui vont résoudre les problèmes. C'est pas vrai. Ce ne sont pas eux qui vont résoudre les problèmes. C'est tous ensemble.
Je sais pas ce que croit Nicolas Hulot. Je sais que ce qu'il faut qu'on comprenne tous, c'est qu'il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup de gens sont en train de changer. Il y a des pratiques nouvelles de consommation.
Oui, ça, vous avez raison.
Il y a des pratiques nouvelles de consommation. Et je dirais que entre l'État, les grands responsables politiques et les individus, il y a des réseaux collectifs. Or, c'est ça, moi, qui me donne confiance, finalement, dans les problèmes écologiques où on est, c'est que il y a un véritable mouvement. Alors, c'est pas un mouvement de masse.
C'est un petit pas. C'est un petit pas.
Si vous voulez parler de petit pas, c'est pas un problème.
Non, mais c'est un petit pas qui est assez grand, mais je partage votre point de vue.
Mais si vous voulez, il y a dans le monde entier, il y a quantité de gens qui sont en train de changer de pratique.
Absolument.
Alors, si ça reste individuel, bon, pas prendre des douches et pas des bains, bon, mais ça devient collectif et c'est ça qui est important.
Absolument.
Mais
non. Il faut réaliser à quel point les choses ont changé quand même.
Oui.
Voilà. Au lieu d'être dans l'impuissance en se disant on ne fait rien.
Dans les 20 dernières années, il y a énormément de choses qui ont changé. Voilà. Il y a tas de produits qui ont disparu de notre environnement. Il n'y a pas eu que des produits toxiques qui sont arrivés. Il y a aussi plein de choses qui ont disparu. Il y a des comportements qui ont changé. Donc, effectivement, ça donne de l'espoir.
Ça donne de l'espoir. Mais après la guerre, c'est instauré en France, et pour des raisons d'ailleurs humanistes, une agriculture productiviste. Oui, il fallait vraiment pouvoir nourrir tout le monde. On en voit les méfaits aujourd'hui. Mais l'une des raisons, par exemple, pour lesquelles Pascal Canfin n'a pas accepté le poste de ministre de l'écologie à la suite de la démission de Nicolas Hulot, c'est qu'il n'a pas obtenu d'être associé à la réforme de la PAC avec le ministre de l'Agriculture. L'autre raison, c'est, je crois, qu'en effet, il voulait un bing-bang et pas simplement une politique des petits pas. Mais revenons à cette question, justement. Est-il possible aujourd'hui de sortir de cette logique de l'agriculture intensive et de l'élevage industriel? Ou cela relève-t-il déjà du vœu pieux, même si, ici ou là, se développent des pratiques alternatives? Catherine Larère.
On est en train de sortir. Un département comme le Gers doit être, je ne sais plus, c'est entre 35 ou 50% d'agriculture bio, qui n'est pas une toute petite agriculture, qui est une agriculture qui nourrit ceux qui s'y livrent. Donc, il n'y a pas uniquement la grande agriculture du bassin parisien ou l'élevage intensif en Bretagne. Il y a des formes d'agroécologie, il y a des formes d'agriculture biologique qui se développent et qui arrive à intéresser des gens qui sont pas des convaincus idéologiques. Ça devient une conduite rationnelle de faire de l'agriculture biologique. Alors le problème, c'est que l'État avait promis des subventions, parce qu'il faut deux, trois ans pour faire la transition entre le type d'agriculture intensive qu'on faisait et l'agriculture biologique. Ça demande des aides de l'État. Il y a tellement de gens qui le font, tellement d'agriculteurs qui sont lancés là-dedans, que les aides de l'État n'arrivent pas. Mais donc, c'est possible. Hein. Et peut-être qu'à force de raisonner en grands termes du genre capitalisme, il n'y a plus de socialisme, pour prendre le nom. Bon, pourquoi parler on n'en sort pas du capitalisme. Il faut se rendre compte qu'il y a diverses possibilités à l'intérieur d'une agriculture qui passe par le marché, disons.
Vous êtes d'accord, Marc Fontcave?
Pas totalement. C'est-à-dire qu'à la fois, je me réjouis, en effet, qu'il y ait ces initiatives-là.
Il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup. Mais finalement, le Gers ou je ne sais pas quel département, c'est une toute petite partie de la planète. À nouveau, c'est quelque chose qu'on oublie le plus souvent. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète actuellement. À la fin du siècle, on atteindra probablement les 10 milliards. Donc la problématique, c'est comment on nourrit ces gens-là. Donc on peut toujours dire, et pour moi, d'un certain point de vue, c'est des rêves de riches, la France, oui, peut se permettre d'avoir une agriculture qui soit moins intensive, plus respectueuse de l'environnement. Et il faut qu'on le fasse. Mais à nouveau, la problématique, elle est globale. Et cette agriculture qu'on attaque aujourd'hui, bah finalement, elle a permis, moi je connais bien l'Inde, hein, j'y suis allé très très souvent, elle a permis en quelques années à l'Inde de faire sortir plusieurs centaines de millions de gens de la pauvreté. C'est la même chose en Chine. Est-ce que ce qui se fait dans le Gers est applicable à l'échelle de 10 milliards d'habitants? Je ne pense pas.
Peut-être pas.
Donc il faut trouver un équilibre.
Mais d'un autre côté, Marc Fontcave, l'élevage industriel exige une importation de soja, du soja du Brésil pour nous nourrir les poulets, notamment, que nous devons pouvoir exporter, dit l'Union européenne. Et ce soja du Brésil, il se développe, il se cultive au détriment des cultures vivrières et ça participe à la déforestation. Donc on peut dire aussi que on a pour justement entretenir cette agriculture, dépouiller les pays qu'on appelait autrefois du tiers-monde de ce qui aurait pu être une sorte de d'auto-alimentation. C'est quand même un phénomène sur lequel on peut s'interroger également. Peut-être y a-t-il d'autres manières de nourrir la planète, mais peut-être aussi, cela signifie-t-il, comme le disait Lévi-Strauss, que le premier problème écologique, c'est un problème démographique. C'est-à-dire que la Terre n'est pas faite pour abriter 9 milliards d'hommes. Et donc, si nous n'arrivons pas à assurer une transition démographique digne de ce nom, notamment en Afrique, nous n'arriverons à rien.
Mais il y avait justement une déclaration signée de scientifiques, un manifeste signé de scientifiques dans le monde d'hier, qui appelait l'attention sur le problème démographique, mais en disant aussi que c'est un problème que les gens prennent en charge. On va pas, la politique chinoise d'enfant unique est en train d'avoir des conséquences extrêmement nocives, à tel point que les Chinois y ont renoncé. Donc on sait comment on diminue la démographie, que les femmes aient la possibilité de s'éduquer et qu'elles aient la possibilité de travailler. On sait ce qu'il faut faire. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas gérer la question démographique comme une question technique. C'est une question politique, la question démographique. En plus, c'est vrai que 11 milliards, c'est beaucoup, mais ces 11 milliards ne pèsent pas le même poids. On sait qu'un Américain consomme, j'en sais rien, mettons 40 fois de plus qu'un Burkinabé. Et que donc les empreintes écologiques des différents individus qui habitent la planète ne sont pas du tout les mêmes.
Oui, mais enfin, le Niger pourrait nourrir sa population, comme l'a montré Stephen Smith dans son dernier livre, si la population restait à 7 ou 8 millions. Mais si elle augmente jusqu'à 20, 30 ou 50 millions, le Niger ne pourra pas. Donc, de plus en plus de gens partiront. Et ce n'est pas souhaitable, ce n'est même pas possible au plan politique et même au plan écologique. Donc
mais on est d'accord, mais vous n'allez pas leur imposer, vous n'allez pas prendre des mesures autoritaires. Il faut aider les pays à se prendre en charge eux-mêmes.
Je le veux bien, mais je dis que devant des difficultés pareilles, et effectivement l'impossibilité et le refus de recourir à des mesures autoritaires, une certaine inquiétude, sinon un certain pessimisme est permise.
Lévi-Strauss va plus loin, il dit même, je ne peux pas être optimiste ou je ne crois pas en un monde qui sera trop peuplé. Alors là c'est très pessimiste et je crois que c'est effectivement un sujet très difficile. C'est pour ça, à nouveau, parce que je ne vois pas comment on pourra ralentir cette montée vers les 10 milliards.
Les 10 milliards, j'en sais rien. Et là encore, je suis philosophe, je ne suis pas démographe. Non. Mais les démographes disent qu'à partir de 2100, on baisse.
Oui, alors... C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, je lisais quelque chose là-dessus. Pratiquement tous les 20 ans, les démographes prédisent un plateau. Qui n'est jamais vu.
Ah oui, c'est vrai, jamais.
Voilà. Alors aujourd'hui, comme il y a 20 ou 30 ans, on prédit un plateau. toujours est-il que je crois que les prévisions de 9 à 10 milliards d'habitants à la fin du siècle sont sérieuses. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir ralentir ça. Alors, s'il y a un plateau à 10 milliards, tant mieux, on arrêtera les dégâts à ce moment-là. Mais c'est pour ça, si vous voulez, que je ne crois pas que la question soit de passer d'une je suis pas un spécialiste d'agriculture, mais d'une agriculture destructrice de l'environnement, telle qu'on l'a définie, à une, mais qui a quand même nourri pour le moment 7 milliards d'habitants, et pas très bien d'ailleurs, hein, parce que quand même il faut savoir qu'il y a une grande pauvreté dans certaines régions du monde, et que tout d'un coup, parce qu'on passerait à une agriculture biologique, on résoudrait le problème de l'alimentation des 10 milliards d'habitants. Donc, je veux dire, franchement, si on raisonne comme ça, je crois qu'on est complètement à côté de la plaque.
Mais personne ne raisonne.
Donc, je termine en disant que, certes, il faut tout un tas d'initiatives pour faire cette agriculture qui respecte l'environnement, mais je crois que là aussi, il y a des révolutions scientifiques et technologiques à pousser, à défendre, à réaliser, qui vont mettre sur le marché et pour l'utilisation des agriculteurs des produits, des insecticides, des fongicides qui seront plus compatibles avec l'environnement, des façons d'utiliser l'eau de façon plus économique, enfin, etc. Donc voilà, moi je ne vois. Bon, je suis un scientifique, donc je crois à la possibilité de l'homme de résoudre les propres problèmes qu'il a créés et par le biais de la science et de la technologie. À nouveau, je pense que la difficulté, on revient à ce qu'est une politique écologique, la difficulté de définir une politique écologique, c'est qu'on ne voit que une opposition drastique à la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire on dit qu'aujourd'hui c'est extrême et on fait des propositions qui sont extrêmes de l'autre côté. Et les deux ne sont pas... Alors, ne sont pas possibles.
Je voudrais vous citer une phrase du célèbre livre de Hans Jonas, Le principe responsabilité. Mmh. Un appel muet qu'on préserve son intégrité semble émaner de la plénitude du monde de la vie, là où elle est menacée. Et cet appel, on l'entend surtout, si j'ose dire, du côté des animaux. Et dans votre livre, donc, Penser et agir avec la nature, Catherine Larère, vous dites que vous parlez de la domestication des animaux et elle n'a abouti que parce que les hommes n'ont pas traité les animaux comme des machines, comme des objets extérieurs, mais ils ont échangé avec eux des services, des informations et des affects. Vous nommez cela un contrat domestique. Et l'élevage industriel que Jocelyne Porcher appelle la production animale rompt ce contrat. C'est-à-dire, en effet, c'est une production. On ne fait plus avec, on fait. Carrément, on fabrique les animaux. Ils ne sont plus que ouvriers ou matière. Et c'est une situation très grave. Et là, on peut dire, que faisons-nous? C'est-à-dire, ça peut nuire à la santé aussi, cette forme d'élevage, mais simplement, pas seulement. C'est-à-dire, j'ai appris l'autre jour à la télévision que les porcs élevés en batterie, comme ça, sont dans un tel état de promiscuité, d'ennui, qu'ils en arrivent à se dévorer les uns les autres. Mmh. Ce sont des situations absolument abominables que on ne peut pas dire qu'il faut les préserver pour nourrir la planète. Ça, c'est, je ne crois pas. Mais alors, est-ce que vous voyez assez d'initiatives aujourd'hui, Catherine Harrère, pour dire on en sort?
On a les moyens d'en sortir. Moi, j'ai signé récemment un engagement au lundi vert, à ne pas manger de viande un jour par semaine. Ça me paraît raisonnable. C'est-à-dire, ça me paraît raisonnable de diminuer notre consommation de viande, qui est très largement... inutile et nocive. Donc, je pense qu'il y a possibilité, justement, sur la base de sortir de ces élevages industriels qui sont pour le malheur de tous, parce que les gens qui travaillent dans ces porcheries, c'est des gens qui restent au maximum un an, deux ans, parce que c'est insupportable pour ceux qui travaillent là-dedans aussi.
Pour qu'on en revienne à l'élevage fermier, il faudrait effectivement que nous diminuions significativement notre consommation de viande.
Moi, je pense. Et moi, je pense que au lieu de manger à Noël des chapons engraissés industriellement, on peut manger un très bon poulet. Bon, vous allez me dire que c'est peut-être un souhait de riche, mais il y a aussi un effet de... C'est Hume qui montrait que souvent l'exemple vient d'en haut. Oui. Et si on change de comportement alimentaire, ça peut se répandre.
Là aussi, je pense que, enfin, j'ai pas de réponse à apporter à ça, simplement de constater quand même que sur ce sujet-là, et je partage votre point de vue, hein, il y a quand même une prise de conscience petit à petit. On voit quand même que ce sujet vient sur la table, ce qui n'était pas le cas. Moi, je crois pas avoir entendu parler de ces problèmes-là il y a 10 ou 15 ans. Enfin,
donc... Oui, mais alors, il est sur la table, mais il n'est pas forcément très bien traité par les activistes les plus bruyants, parce que ceux-ci ne font pas la différence entre la production animale et la domestication. Ce sont deux modalités de l'exploitation avec lesquelles ils décident d'en finir. Et c'est là, d'ailleurs, que je voudrais vous dire un mot sur l'histoire de l'ours, Catherine Larère. Parce que on voit certains écologistes, pas tous, penser que les animaux domestiques sont quand même beaucoup moins intéressants que les animaux sauvages. Et le premier geste de François de Rugy, ça a été de parrainer la réintroduction d'ours dans les Pyrénées aux grandes dames de la population locale, et notamment des éleveurs de brebis. Mais les brebis, c'est comme si c'était la part de l'ours, ce merveilleux animal sauvage. Et d'ailleurs, vous citez dans votre livre un penseur écologiste, je crois Callicott, c'est ça?
Ouais.
Et alors lui, alors il y va carrément, parce qu'il considère que les animaux sauvages méritent notre considération morale, donc les loups, dont vous parliez tout à l'heure, les ours, les délicieux vautours. En revanche, il n'en est pas de même des animaux domestiques que Callicott qualifie de living artifacts.
Oui, mais il a changé d'avis.
Oui, donc.
Non, mais c'est là, si vous voulez, c'est le côté contre lequel qu'on critique, caricatural, si on est dans une opposition radicale entre ce qui est naturel, sauvage, et ce qui est artificiel et mauvais. Les ours qu'on réintroduit dans les Pyrénées, ils viennent de Slovénie, ils ont été transportés par avion, ou je sais pas comment, ou par camion.
Ils sont un peu artificiels.
Ils sont un petit peu artificiels.
Donc, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? C'est ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de loups
si
et d'ours?
Moi, si vous voulez, j'ai du mal à défendre l'ours, parce que c'est un petit peu des gesticulations écologiques, c'est-à-dire, on met des ours, il y a pas une population suffisante. Bon, j'en sais rien, mais je voudrais faire la différence entre les loups et les ours. Parce que les loups, ils sont revenus tout seuls. Et si on peut pas, d'une certaine façon, on peut pas s'en débarrasser des loups. Alors, je sais que ça va faire hurler, mais c'est très difficile de tuer un loup. Et puis, ils vont revenir parce qu'ils sont en Italie, en Allemagne, en Europe centrale. Et ils sont venus comme des grands, si je puis dire. Donc, c'est pas du tout la même chose, comme dit Baptiste Morisot, de négocier avec des loups et de prendre des ours qu'on sort d'une cage et qu'on met dans la nature qui n'est pas vraiment la nature sauvage.
D'accord. Alors, je reviens à la question qui nous intéresse. Quelle politique? Comment poser des limites? Et je vais citer à nouveau Jean Covici. Je vous soumets cette réflexion. Marc von Carve. Je fais partie de ceux qui pensent que le nucléaire est un morceau de la solution plutôt qu'un problème en soi, car il n'émet que très peu de gaz à effet de serre, 100 fois moins que le charbon, 50 fois moins que le gaz. Alors c'est un pavé dans la mare, parce que les écologistes combattent toutes les énergies fossiles et le nucléaire est même en tête de liste. Alors, que pensez-vous de cette réflexion iconoclaste de Jean-Marc Jancovici?
Alors, plusieurs choses à dire. La première, c'est que ce que dit Jancovici est tout à fait vrai. Les pays qui sont très nucléarisés et qui ont beaucoup d'hydroélectricité, donc les barrages, sont les pays qui produisent le moins de CO2. La raison pour laquelle, tout à l'heure, on a dit la France ne produit que 1% du CO2 mondial, c'est par son choix historique du nucléaire et de l'hydroélectricité qui fait que son électricité, hein, on parle d'électricité parce que après il y a les voitures, les bâtiments, etc. Mais son électricité est à plus de 90% décarbonée. On devrait crier sur les toits, c'est fantastique, la France est exemplaire. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand François Hollande est arrivé à la présidence, le Parti socialiste a négocié cette baisse du nucléaire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la politique énergétique de la France, ce n'est pas une politique pour le climat, c'est une politique antinucléaire. Voilà ce que je pense. C'est-à-dire que ce qui a déterminé le choix de la politique énergétique de la France, c'est son caractère antinucléaire qui a poussé à diminuer, enfin on l'a pas encore totalement fait, mais à diminuer la part du nucléaire. Donc là, il y a une formidable contradiction, et c'est pour ça que je partage ce que je dis Jean Covici. Moi, personnellement, je suis convaincu que le nucléaire n'est pas là pour jusqu'à la nuit des temps, la fin des temps, mais aujourd'hui, c'est en effet un outil pour répondre à la question du GIEC, du dernier rapport du GIEC, comment on fait pour diminuer la production des gaz à effet de serre, le CO2, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on ne diminue pas le nucléaire français.
Catherine Arrère.
Comme je disais, il n'y a pas qu'à Foucault. Il ne suffit pas de produire moins de CO2. Le nucléaire, effectivement, ne produit pas de CO2, il produit des déchets, qui sont un problème à peu près insoluble. Et la réponse beaucoup des opérateurs du nucléaire, c'est si vous voulez moins de déchets, il faut continuer le nucléaire. Donc il faut continuer à produire des déchets. Il y a aussi le fait que quand vous disiez la France a très peu d'importance, on pourrait dire la même chose pour le nucléaire. La France est un des rares pays du monde qui maintient du nucléaire.
Les deux choses sont corrélées.
Les autres pays, le Japon est revenu en arrière après Fukushima.
Il redémarre des centrales.
Mais les autres pays ne font, pour ainsi dire, plus de nucléaire. Donc, d'une certaine façon,
Cinquantaine de centrales qui sont en cours de construction sur la planète.
En Chine.
Inde, en Russie.
Et quelles sont les alternatives au nucléaire, alors?
Elles sont plurielles. Il y a effectivement d'autres. Il y a du solaire, il y a de l'éolien, il y a aussi consommer moins.
Il y a consommé moins. Mais alors sur les éoliennes.
Oui, revenons sur les
éoliennes.
Consommer moins, c'est un sujet. Mais revenons sur quelles sont les alternatives.
Oui, justement, sur les éoliennes, parce qu'elles posent un problème. Elles font du bruit et c'est extrêmement laid. Et j'ai ici sous les yeux un communiqué d'un ancien déjà du parti de l'innocence disant les solutions des problèmes de pollution énergétique. La solution donc ne doit en aucune façon être recherchée dans des méthodes qui détruisent des cadres de vie traditionnels, rendent la terre visuellement inhabitable et impliquent une gestion du territoire purement pratique, matérielle, calculatrice et indifférente à la dignité de ceux qui l'habitent. Et il faut lutter contre la prolifération des éoliennes parce qu'une vie qui se déroulerait de toutes parts dans leur ombre et sous leur palan, assassin des oiseaux, ne mérite pas qu'on se batte pour elle ni d'être vécue. Alors c'est un peu emphatique, etc. Mais en tout cas, ça pose un problème. Et d'ailleurs, ceux qui vivent dans le voisinage des éoliennes ne sont pas du tout contents. Pollution visuelle, pollution sonore aussi. Est-ce qu'on va payer justement l'abandon du nucléaire et des autres énergies par une pollution sonore et le bruit règne sur la terre entière aujourd'hui. Et c'est une question dont l'écologie doit dont elle doit se saisir.
Oui.
Marc Montcave.
Ce qu'il faut dire vraiment de façon très très forte, c'est qu'il n'y a aucune solution sans inconvénient.
Voilà.
Non, sans inconvénient.
Sans inconvénient. Entièrement.
Si c'était le cas, alors je reprendrai les trois auxquels je vais faire allusion. Si c'était le cas, il y a longtemps qu'on vivrait sur une énergie. Bon, le nucléaire a l'avantage de ne pas produire de gaz à effet de serre, mais par contre, et en effet, de produire des déchets. Les énergies renouvelables, l'éolien, alors vous évoquez, ou le solaire, vous évoquez un des problèmes, mais c'est qu'elles sont surtout intermittentes. Les fossiles, c'est formidable, mais effectivement, ça produit des gaz à effet de serre. Bon, si vous prenez ces trois choses-là, qui sont en gros...
Il y a les biocarburants, mais c'est pas mieux.
Oui, bon, et l'hydroélectricité, les barrages, on a fait à peu près le plein sur la planète, marginalement, il reste des choses en plus, mais bon. Donc, si vous voulez, ça, c'est la première chose à dire. Donc, de toute façon, quel que soit le scénario énergétique, nous aurons des inconvénients. Ne pas faire croire aux Français qu'il y a une solution miracle.
Tout à fait.
Les énergies renouvelables ne sont pas une solution miracle. Elles ont aussi des inconvénients. Et si vous voulez, je veux juste dire un mot, parce qu'il s'avère que là, pour le coup, c'est mon métier, parce que je travaille sur cet aspect-là. Le gros problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Et que s'il n'y a pas de technologie de stockage de cette énergie, dans les périodes où vous en avez en excès, vous perdez cet excès, et dans les périodes, la nuit, quand il fait mauvais, quand il n'y a pas de vent, eh bien, qu'est-ce que vous êtes ? Vous n'avez pas l'excès précédent que vous pouvez utiliser, et alors vous faites tourner ce que vous détestez, à savoir les fossiles ou le nucléaire, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est que si nous considérons que la grande question écologique, c'est le climat, c'est donc les gaz à effet de serre, évidemment plus que l'ours, etc., eh bien, il faut accepter un certain nombre d'inconvénients et prendre les énergies qui sont les moins productrices de gaz à effet de serre. C'est pour ça que j'ai cette position sur le nucléaire. C'est pas parce que j'ai une passion particulière pour cette technologie, c'est parce que, fondamentalement, il y a ce problème de production de CO2. Et je termine. Les déchets, bien sûr que c'est un problème majeur. Là aussi, je crois en la capacité de l'homme, de sa science, de sa technologie, de nos ingénieurs, à travailler sur ces sujets-là et à trouver des solutions.
Je dirais que sur les déchets, ça fait quand même, le CEA est créé en 45, les premiers réacteurs sont mis en place dans les années 60. On a non seulement toujours rien trouvé,
c'est pas tout à fait vrai.
Et d'autre part, si on regarde la politique de d'enfouissement des déchets, ça suppose qu'on ne trouvera rien. Parce que sinon, on laisserait beaucoup plus la possibilité que les générations futures les reprennent. Donc là, il me semble qu'il y a un petit problème sur la confiance dans la technologie. Et si vous avez confiance dans la technologie, alors vous devez avoir confiance dans le fait qu'on trouvera des technologies pour stocker l'énergie, d'autant plus qu'elles existent.
Mais alors, si vous ne voulez pas du nucléaire, vous faites comme en Allemagne, c'est malgré les renouvelables, vous avez plus de production de CO2, parce qu'il faut faire tourner les fossiles. On tourne en rond, si vous voulez.
Alors, on en arrive aussi ce que je voulais dire, et ce qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est que ce que nous a appris la crise écologique, c'est que il y a toujours des conséquences secondaires nocives. Et que donc, ça demande un autre regard vis-à-vis de ce qu'on fait.
Alors, un autre regard. Je vais faire personnellement aussi ma propre profession de foi écologique. Et vous me direz ce que vous en pensez pour finir. Alors d'abord, je vais vous citer un théologien suisse un peu oublié aujourd'hui, Max Picard, dans un livre magnifique sur le silence, publié en 1954. « Il n'y a pas d'unité de la terre par l'esprit, la religion, l'humanité ou la politique, mais il y a unité de la terre dans le bruit. » En lui, toutes les choses et tous les hommes sont reliés les uns aux autres. Enfin, c'est un rappel de la pollution sonore. Et puis, quelque chose de plus récent qui ne vous a sans doute pas échappé, un appel, justement, sur les pesticides, publié le 12 septembre 2018 dans Charlie Hebdo et rédigé, je crois, par Fabrice Nicolino. Nous ne reconnaissons plus notre pays, la nature y est souillée, le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans, la moitié des papillons en 20 ans, les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards, les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies, les fleurs sauvages deviennent rares, ce monde qui s'efface est le nôtre, et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots, rendez-nous la beauté du monde. Ça, je pense qu'une écologie qui ne se soucierait pas de la beauté du monde, eh bien, manquerait quelque chose d'essentiel.
Écoutez, moi, Marc Fontaine, je ne partage pas ce point de vue. Ce catastrophisme est à nouveau, cette description de la France est totalement inappropriée. La France est belle. Elle est entretenue par nos agriculteurs, par quand vous voyagez en avion, bon, désolé, et je ne devrais pas le faire.
Ça y est,
et que je regarde en dessous, je vois un pays qui est relativement bien entretenu, avec des campagnes qui sont aussi bien entretenues. Alors, peut-être j'ai pas fait attention s'il y a moins de coquelicots et moins de papillons, mais dire que la France, qu'on n'a plus notre France aussi belle, je peux pas partager ce point de vue. Ce que vous dites, ça tombe sur la question de la biodiversité. En effet, il faut continuer à travailler à éviter de mettre dans notre environnement des produits qui seraient trop toxiques, par exemple, si c'est ça qui est le responsable de la disparition des coquelicots et des papillons. Mais là aussi, je crois que les gens en ont pris conscience. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais les gens en prennent conscience. Il y a des gens qui travaillent, y compris dans les entreprises chimiques, pour découvrir de nouveaux produits qui vont faire peut-être revenir les papillons.
Je suis d'accord avec ce que vous dites sur la beauté du monde, parce que je crois effectivement que C'est un élément de notre conscience écologique et que...
Vous trouvez la France laide ?
Écoutez, je vous parlais du Gers. On a, à peu d'années de suite, on a passé des vacances en Bretagne, puis dans le Gers. Le Gers, c'est une agriculture marchande, mais qui n'a pas détruit son paysage. Et le Gers, c'est un petit peu la Toscane de la France. C'est des endroits de paysages superbes, avec cette capacité à laisser pousser un arbre au milieu d'un pré, juste parce que c'est joli. Et donc, le Gers est extrêmement beau. Bon, l'endroit de Bretagne où on était envahi de friches résultant des échecs de l'agriculture productiviste. C'est-à-dire des porcheries qu'on a abandonnées.
Et
donc là, il y avait un problème, si vous voulez. Moi, je suis en gros d'accord avec vous. La France est belle parce qu'il y a une très longue habitude de vivre dans... Parce qu'il y a des paysages pour les paysans, hein, et que les paysans... tiennent à leur terre et à leur beauté, l'agriculture productiviste peut conduire à des conséquences très très nocives.
Et puis aussi, on peut parler quand même de la multiplication des zones commerciales, de l'extension indéfinie du périurbain au détriment des campagnes.
Oui, la bétonisation.
Et des villes qui se vident.
Des villes qui se vident, des banlieues en continu. Donc on peut justement, la France est un des plus beaux pays qui soit, mais on peut s'inquiéter pour la survie de cette beauté et considérer donc que notre responsabilité écologique est effectivement de veiller sur la beauté du monde.
Oui, oui.
Là-dessus, vous seriez d'accord.
Oui, je suis totalement d'accord.
Alors, donc nous terminons sur ce point d'accord. Donc, il me reste à vous remercier, Marc Van Cave et Catherine Arrère. Alors,
merci,
je rappelle, Catherine
Arrère,
le titre de votre livre, Penser et agir avec la nature. Vous l'avez coécrit avec votre mari, Raphaël Larère, et il est publié aux éditions La Découverte. Alors, j'ai cité Jean-Marc Jancovici également. Son article est publié dans le numéro 130 du Débat, mai-août 2004. Quant au principe responsabilité de Hans Jonas, il est en poche et aussi aux éditions du CERF. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Le féminisme, état des lieux ». Mes invités seront Eugénie Bastier et Manon Garcia. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.